Voilà. Avant de me présenter, je voudrais, en guise d'introduction et de résumé à ce qui va suivre, commenter brièvement ce petit passage assez connu du procès de Jésus, rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 37, dans le contexte du débat sur la royauté de ce monde, pas de ce monde, et du pouvoir. Et dans ce dialogue, enfin dans cet interrogatoire, Pilate demande « Alors tu es roi ?» Et Jésus, c'est toi-même qui le dis. Et il déclare cette phrase que je commande particulièrement, ceci « Je suis venu dans le monde, en grec « cosmos », je suis venu dans le cosmos, pour ceci rendre témoignage à la vérité et » C'est suivi de la fameuse question « Qu'est-ce que la vérité ?» Pour rendre témoignage, c'est « martureso », c'est la même racine que « martyr ». Plusieurs remarques. Je suis venu dans le cosmos, pas dans l'histoire, pas dans ce lieu. Je suis venu dans l'univers, en quelque sorte. Il y a de la part du Christ une perspective qui est déjà foncièrement universelle dans cette déclaration. Deuxième remarque, rendre témoignage d'une manière qui engage la vie. On parle de martyr de la vérité presque, on est dans cette racine. La racine de la vérité par une certaine forme de vie. Je ne suis pas seulement venu expliquer la vérité, dévoiler la vérité. Voilà. Énoncer la vérité, mais faire de ma vie un témoignage de vérité. Troisième remarque, on pourrait s'attendre à d'autres réponses ou d'autres évocations du but de la venue du Seigneur. Je suis venu pour sauver les hommes du péché. Je suis venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu, qui par ailleurs est un peu en... Il y a peut-être une petite fâcherie entre l'humanité et Dieu. Je suis venu me sacrifier pour effacer la faute originelle. Non, non. Je suis venu rendre un témoignage à la vérité. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Et quatrième remarque, c'est la réponse de Pilate. Ironique ou désabusée. Qu'est-ce que la vérité ? Typique finalement d'une réponse de puissant, de potentat, ou de certains personnages politiques, hommes ou femmes de pouvoir, qui auraient tendance à subordonner la vérité à leur stratégie de manipulation, ou à leur vision de la société, ou voilà. Qu'est-ce que la vérité ? Sinon, un élément parmi d'autres pour maintenir son pouvoir. Donc tout ce que j'ai à vous dire cet après-midi tient en gros dans cet échange entre Jésus et Pilate. Ce petit passage de la comparution de Jésus devant Pilate. Alors le plan de mon exposé est très simple en réalité. Il correspond à ce qu'a été finalement ma vie jusqu'à présent, ma vie de chercheur en sciences et de chercheur en théologie. Il y a donc deux parties, la vérité scientifique et la vérité de foi. Alors, dans la vérité scientifique, comme dans la vérité de foi, je distinguerai une première partie un peu plus générale et puis un sous-paragraphe un peu plus personnel. Voilà. Et j'essaierai d'articuler les deux aspects. Alors commençons par la partie scientifique. Alors côté science, après le lycée et les classes préparatoires, j'ai sans doute convaincu aussi du fait que la nature est un livre écrit en langage mathématique. C'est Galilée qui dit ça. J'ai voulu suivre et passer en parallèle de ma formation d'ingénieur en aéronautique ici à Toulouse, une maîtrise de mathématiques pures. Donc, je salue au passage les professeurs qui sont dans cette salle, puis un doctorat de mécanique des fluides consacré à la résolution numérique des équations de Navier-Stokes. Bon, j'en dirai pas plus, mais j'exerce depuis 35 ans la profession d'enseignant-chercheur dans cette même école où j'ai été formé à SUPAERO, avec un domaine de recherche qui a plus récemment évolué vers celui des drones, dont on entend un peu plus parler aujourd'hui, notamment un projet de drone à hydrogène cryogénique pour traverser l'Atlantique, ça fait à peu près 3000 km entre le Sénégal et le Brésil, selon la route historique de Jean Mermoz, d'où le nom de ce projet qui s'appelle le Défi Mermoz. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est déjà à travers ce projet, pour moi, l'expérience de rencontrer beaucoup de gens qui parlent de l'hydrogène, qui est assez connu dans le spatial, mais encore assez mal maîtrisé pour l'aéronautique, pour les avions, et on voit beaucoup de très très bons ingénieurs et de très bons scientifiques se lancer dans des prédictions assez étonnantes parfois. Alors quand je les interroge, je dis « Mais vous avez calculé ça? Comment vous arrivez à ce résultat ?»« Non mais ils seront beaucoup plus gros, ils seront beaucoup plus lourds, ils seront beaucoup plus longs, ils seront beaucoup plus ceci, etc. » Je parle des avions à hydrogène. Je m'aperçois que souvent, il manque ces déclarations manquent un petit peu de preuves. Et comme je le dis parfois à mes doctorants, moins il y a de connaissances, plus il y a de certitudes. Voilà. Moins il y a de connaissances, et plus les avis sont absolument convaincus. Voilà. Et vraiment, c'est en toute sincérité. Alors, quelques considérations générales sur ce que j'ai appris de ce qu'on peut considérer comme les vérités ou la vérité scientifique. Alors, la vérité est souvent définie en première approche comme l'adéquation entre le discours et la réalité des faits. Alors, on parlerait plutôt en science de modèle que de discours, parce que le discours est intimement lié à la personne qui parle. Et tout l'effort de la science est de délier précisément la valeur des propositions énoncées de la nature, du sexe, de la couleur de peau, de l'origine sociale de la personne qui parle. Voilà. Disqualifier un scientifique parce qu'il est russe et que justement ça, ou parce que c'est une femme, ou parce que etc. C'est complètement contraire, évidemment, à la perspective ou à l'effort d'objectivité. Les vérités scientifiques ne sont pas a priori subjectives, même si l'on n'est pas, même si l'on comprend que tout effort d'expression de cette objectivité ne peut pas totalement se défaire d'une certaine culture et d'un certain, par exemple d'une certaine éducation, par exemple. Voilà. Il faut donc prendre acte ici de la distinction entre les faits et les interprétations. Cette distinction n'est pas évidente et n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des sciences. Elle a d'ailleurs tardé à s'imposer dans l'histoire des sciences, puisque chez les anciens, dans la philosophie grecque, l'idée de base était que pour comprendre les faits, il fallait avoir recours à l'idée préalable. L'expérience étant réputée par nature trompeuse. Et la caverne de Platon, on est dans cette caverne, et les gens qui n'ont jamais quitté la caverne voient des ombres et interprètent, se font une image d'un monde qui est complètement basé sur une illusion, bien sûr. Donc, somme un petit peu, l'humanité serait en quelque sorte prisonnière de la sensibilité de l'expérience. Alors il faut certainement une idée, un regard, une curiosité à la base. Mais, comme l'écrit Mark Twain, les faits sont têtus. Et cette obstination des faits est ce sur quoi bute le chercheur scientifique. Cette obstination des faits, ce retour encore et encore de ces données qui ne correspondent pas à ce que l'on voudrait forcément voir. Dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, chez les étudiants, on a à cœur de les libérer des discours anciens, des discours « on vous a dit que », c'est un peu comme dans les évangiles, « on vous a toujours dit que », mais pensez « out of the box voilà. ». Pensez par vous-même. Autre slogan, ils sont apparemment beaucoup plus... beaucoup plus dans l'air du temps lorsqu'ils sont exprimés en anglais, be your own boss, hein, soyez votre propre patron. Alors je rappelle souvent dans nos élèves ingénieurs qui se préparent aux carrières aéronautiques que, comme disait mon professeur de structure, un super-héros, la gravité, c'est ce qui nous fait tomber quand nous ne sommes pas soutenus par en dessous, sur la Terre, quoi. La gravité, zéro panne. Taux de panne, zéro. Il n'y a pas d'exemple où on se soit... Alors, il n'y a que dans les dessins animés, des fois, hop, ça arrête en plein milieu de la chute. Voilà. Certaines vérités sont donc terriblement solides. Alors, j'aime à penser que Jésus, dont on parle souvent des trois années de sa vie publique, hein, qui est une vie, finalement, cette vie publique a été très courte, mais il y a au moins une trentaine d'années passées à l'atelier de Nazareth, à travailler de ses mains. Et à se heurter finalement à la matière, à l'impitoyable réalité des outils coupants, par exemple. Des règles de la résistance des matériaux. Quand on est charpentier, il faut un petit peu préparer son coup. Et finalement, travailler de ses mains, j'y inclus le travail des ingénieurs, c'est éprouver combien la réalité résiste à nos idées. La réalité résiste à nos idées. C'est cela que Jésus a connu, finalement, une grande partie de sa vie. Je suis aujourd'hui étonné par le fait que certains chercheurs contestent eux-mêmes l'existence de vérités scientifiques. Alors certainement, ils veulent suggérer que les vérités sont toujours contextualisées. Et qu'elles sont toujours aussi, d'une certaine manière, provisoires dans la mesure où les modèles sont eux-mêmes en évolution pour améliorer le modèle initial. Par exemple, elles sont contextualisées parce que si nous disons que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, eh bien c'est exact, je crois, dans... la géométrie plane, euclidienne. Voilà. Mais si vous dessinez ce triangle sur une sphère, que vous soyez à l'extérieur de la sphère ou à l'intérieur de la sphère, eh bien vous pouvez avoir des valeurs qui sont plus grandes ou plus petites que 180 degrés. Donc il faut toujours les contextualiser. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres circonstances qui font que les modèles s'affinent. Donc, en effet, il y a des vérités très, très solides, et puis d'autres vérités sont moins solidement vérifiées. On l'a vu d'ailleurs avec les débats dans la crise du Covid, avec une incompréhension souvent dans le débat public sur le fait que certaines notions sont encore débattues, nécessitent examen. Mais ce n'est pas un débat d'opinion, c'est un débat scientifique contradictoire qui discute des hypothèses selon des règles qui sont rigoureuses, et qui sont basés sur des preuves, des faits avérés. Et quand les faits ne sont pas très avérés, très solides, eh bien, on ne peut pas déduire grand-chose. Voilà. Donc les vérités, ces vérités-là, ne sont pas à notre main. Et le fait est que la tribune qu'offrent désormais les réseaux sociaux et Internet donne à tout un tas de complotistes de tout poil cette impression grisante de contribuer à la fabrique de la vérité. Voilà. Tout le monde devient quelque part compétent sur fond, pas forcément explicite, mais sur un fond assez vague de détestation des élites. Ce phénomène « on nous cache la vérité » est malheureusement pas limité à des personnes peu instruites. Il touche aussi, hélas, des gens éduqués, j'ai dit des chercheurs eux-mêmes, hein, ayant poursuivi des études supérieures, qui finissent parfois par dévisser. On en a quelques exemples. Le pour certains de ces intellectuels, la complexité est une, la complexité du monde ou de l'histoire est une mystification, un écran qu'il faudrait déchirer pour accéder simplement au réel, que l'on nous cache, bien sûr. Les choses sont tellement plus simples. Donnez-moi 24 heures et j'aurai résolu ce problème. Et cette défiance vis-à-vis de la complexité du monde se double, en général, va de pair avec un certain désamour des faits, de l'exactitude, de l'ennui que suscitent les données factuelles, auxquelles on ne peut rien, je répète. Des faits et des chiffres qui ne se plient pas à nos injonctions, à nos désirs. Je me souviens du débat sur la dangerosité du nucléaire. Le maître de CM1 de Maria, que nous avons hébergé quelques années à la maison, lui avait dit la liste un peu différentes manières, différentes sources d'énergie. Et puis, donc, les barrages et les hydroélectriques, etc., fait toutes l'éolien, le solaire. Et la plus dangereuse de toutes, c'est le nucléaire. Bon. Alors, je consulte les chiffres de l'OMS. En 2014, après Tchernobyl et Fukushima, qui estime la dangerosité en nombre de décès par kilowattheure produit. Donc on a 0,04 morts par million de kilowattheures produits. Ça, c'est le nucléaire. L'éolien, 4 fois plus. Le solaire, 11 fois plus. L'hydraulique, les barrages, 35 fois plus. Le gaz naturel, 100 fois plus. Le pétrole, 900 fois plus. Le charbon, 2500 fois plus. Bon, ces chiffres sont désagréables, mais ils sont là. Alors je vous renvoie, on n'est pas là pour débattre de ces chiffres, mais à une association auquel je participe, enfin que je suis membre, s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. Alors ils publient régulièrement, l'AFIS publie régulièrement des mises au point sur voilà, différents sujets, la toxicité du glyphosate, les déchets nucléaires, voilà, toutes sortes de choses. Alors quelques réflexions personnelles tirées de mon expérience dans la partie recherche en sciences. Alors, le point de départ de la recherche scientifique, me semble-t-il, c'est le décalage, l'inadéquation entre le modèle et la donnée expérimentale. En général, c'est ça. Face à ce décalage, il y a une qualité qui est double, en fait, une qualité du chercheur qu'on peut exprimer comme un couple, foi et obstination. Il faut avoir la foi, en fait. Alors, non pas une foi tranquille, etc., c'est plutôt une idée qu'il va falloir remettre sur le tapis avec obstination, effectivement. C'est souvent ce caractère méticuleux de l'enquête scientifique, un peu comme une enquête de police. Je ne sais pas comment ça se passe exactement chez les policiers, mais je me fais cette idée, en tout cas. Un patient travaille de petites vérifications quotidiennes, pas à pas, mené pas à pas au quotidien. Finalement, un travail un peu monacal. Vous voyez. Et puis, de temps en temps, quelques pourcents du temps, on a la joie de quelque chose qui se débloque, quelque chose qui fait sens et qui permet de franchir un seuil. Mais pour franchir ce seuil, il existe des méthodes. La première est l'écriture. Le travail du chercheur est un travail d'écrivain. Tous les jours. C'est une assaise que j'impose à mes doctorants. Première chose que je leur demande quand ils viennent me voir, combien de lignes, combien de pages avez-vous écrit aujourd'hui ? Alors, maintenant qu'ils sont sur des écrans et qu'ils tapotent, etc., il n'y a bien sûr aucune page qui sort toute seule. J'ai dit non, mais prenez du papier, du vrai papier, là, celui qui vient de nos forêts, là, avec là, des pages, etc., des stylos, etc. Et puis grattez, mettez de l'encre, là, allez-y. C'est comme ça que se fait la pensée, pas uniquement en faisant des calculs qui passent. Oui. On retrouve une forme de tradition orale à travers l'usage immodéré de l'informatique. Quand l'humanité s'est mise à écrire et à lire, on a franchi un pas considérable dans l'usage des concepts. Je plaide beaucoup dans une école d'ingénieurs comme celle où je travaille pour que l'on cesse d'ajouter la deuxième, troisième ou quatrième langue vivante, mais qu'on étudie le français, qu'on écrive, qu'on apprenne à écrire, tout simplement. Il y a un deuxième ingrédient qui est très important, qui est le dialogue avec les pairs. Dialogue qui peut être d'ailleurs sous forme assez comique, ça m'arrive souvent. On a besoin, j'ai des collègues qui font la même chose dans l'autre sens, de débarquer chez un voisin. Tu as 2 minutes, il faut que je t'explique quelque chose, parce que je crois que j'ai une idée. Ouais, vas-y. Et on écrit, et la personne chez qui vous êtes, ou devant laquelle vous faites cette explication, n'a pas tronché. Elle est juste présente. Et puis vous repartez. Ah, mais merci. Merci de quoi ? J'ai rien dit. Mais vous avez, ça y est, ça a déclenché quelque chose. Je pense que les chercheurs ici voient de quoi je parle. Et ça, c'est très, très important parce que on dit on ne peut pas être chrétien tout seul, mais on ne peut pas être non plus scientifique tout seul. On a vraiment besoin d'un regard. D'où l'importance des journées d'études, des séminaires, des conférences. Et dans ces conférences, l'importance des pauses café. Des endroits où on ne fait rien, juste se parler. Juste échanger en disant « Ah oui, écoutez, j'ai écouté votre exposé, alors j'ai quand même une question, et qu'est-ce que vous pensez d'eux, etc. » À une époque où, maintenant, je trouve, les conférences sont organisées comme des batteries de pitch, on appelle ça des pitch, de 10-15 minutes. C'est plus dynamique, c'est plus cool, on fait ça debout. J'apprécie hautement que l'université chrétienne d'été de Castanet garde le schéma d'université qui prend son temps. On parle, je vais essayer de ne pas dépasser le mien, on parle, mais on a le temps aussi de sédimenter, de digérer tout ça. Et puis il y a un dernier ingrédient qui personnellement m'a été fort utile, la plupart des bons résultats, j'allais dire des beaux résultats, mais enfin, c'est peut-être un peu exagéré, des petits bons résultats dont je suis fier, je les ai trouvés. Alors, grâce aux 98% de corvée, de travail laborieux, d'enquête, mais aussi par les quelques pourcents de pédalage le long du canal du Midi, de la pause. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que Darwin travaillait 4 heures par jour. On se plaint que la France n'est pas au travail, qu'il va falloir, etc. En réalité, il travaillait très très peu. Il écrivait, il prenait son petit déjeuner, ensuite il discutait avec sa femme, je ne sais pas quoi, il faisait les trucs de la maison. Après, il partait marcher 2 heures. Et puis ensuite, il revenait, puis il écrivait encore quelques pages, etc. Et ainsi de suite. Et finalement, dans la journée, il travaillait très peu. Mais le cerveau est une chose tellement extraordinaire, c'est que ça fonctionne même quand vous dormez, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le matin, il y a des choses qui s'éclairent. Alors des fois, c'est des vraies fausses bonnes nouvelles. Hein. Mais quand vous reprenez, moi, des fois, je me lève, je prends un papier, je dis, mais alors c'est ça, tac, tac, tac. Puis là, je comprends. Finalement, non, c'était pas ça. En tout cas, ça, vous voyez, c'est une prise de recul. À une époque où aujourd'hui, je terminerai sur ces considérations, on a tendance à survendre les projets. Nous sommes... Maintenant, aujourd'hui, les chercheurs sont aussi passent autant de temps pratiquement à chercher des financements qu'à chercher ce pourquoi ils sont censés chercher. Et cette recherche de financement passe par une sorte de marketing scientifique consistant à promettre des bénéfices heureux pour la société et extraordinaires. Vous allez voir avec ce que je vais trouver. D'ailleurs, c'est ça que je vais trouver, etc. On ne fait pas de recherche, on prédit des choses. Mais enfin, on est bien obligé, sinon, pas de financement, pas de doctorant, pas de rien, quoi. Bon. Ah, si, papier-crayon, qu'on se sera acheté à titre personnel. Autre tendance récente, l'approfondissement ou la superficialité, c'est l'accès... face à l'accès presque immédiat à l'information et à une quantité considérable d'informations. Alors ça, c'est très nouveau. Je me souviens il y a encore une vingtaine d'années, on commandait un article, et puis des fois, on l'avait 2 mois plus tard, et quand on l'avait, on était content. On l'imprimait, on prenait les crayons. Là, vous avez sur cette table des tas de crayons de couleur. J'ai gardé cette technique, et on soulignait, on redisait, etc. Bon. Et on était content. Maintenant, en trois clics, vous avez 30 références. Et le paradoxe, c'est que on dirait que les gens ne les lisent pas. Alors je soumets moi régulièrement, je suis un directeur de thèse épouvantable, mais je soumets régulièrement mes doctorants à l'exercice de l'exposer papier-crayon. J'ai dit, écoutez, non, vous allez... Très bien, vous avez trouvé combien d'articles ? Ah ben 45, regardez, il y a ceux qui disent ça, etc. J'ai dit, alors voyons, prenez celui-ci, celui-là, et vous allez me le présenter, vous aurez trois quarts d'heure pour me présenter cet article dans le détail. Et je vous garantis qu'il faut m'expliquer tous les détails. Comme si c'est vous qui avez été... Alors ce sens de l'approfondissement de la pensée semble se perdre à cause de, j'imagine, l'effet de sidération que représente l'accès immédiat à toutes les bibliothèques et tous les livres ouverts. Vous voyez, ça donne un peu le vertige. Voilà. Ce sens de l'approfondissement va de pair avec l'amour, je dirais, de l'exactitude. L'exactitude, je cite Alain Finkielkraut, il dit dans un de ses livres, il dit « L'exactitude est un caillou qu'ils ôtent de leurs chaussures pour avancer plus vite ». L'image très belle, c'est qu'on passe par-dessus les détails, hein, mais ça va finir par fonctionner. Alors je laisse au débat qui suivra peut-être la délectable question de l'intelligence artificielle avec ce qu'elle introduit d'intéressant sur la différence entre le véridique et le vraisemblable. Parce que c'est très vraisemblable ce que dit l'intelligence artificielle, mais parfois ce n'est pas toujours dans le véridique. Je voudrais juste dire que mon témoignage, enfin ma réflexion sur la vérité scientifique m'a amené à penser que la vérité scientifique jaillit au terme d'un travail, certainement, mais que nous ne la fabriquons pas et nous faisons seulement que la mettre en lumière. Et cela est libérateur, car ça constitue comme une offrande à la communauté scientifique d'une réalité qui ne nous appartient pas. Il y a une dimension eucharistique, en fait, dans la vérité scientifique. Vous voyez, quelque chose que l'on bénit parce qu'on le reçoit de quelqu'un d'autre et qu'on offre de nouveau. Il y a quelque chose de très, très beau et qui, me semble-t-il, rejoint les mêmes propos que je vais maintenant aborder sur la vérité de foi dans ma deuxième partie. Alors, côté théologie, j'ai pu bénéficier de l'éducation catholique d'une famille pratiquante et j'ai vécu... à une époque charnière où le catéchisme basculait, assez brutalement d'ailleurs, d'une approche traditionnelle attachée à la pureté de l'âme, à la piété, un credo appris pas toujours de manière très critique, vers une approche fondée sur la foi comme signe d'un humanisme presque radical, dans lequel, sans le vouloir, était aplati une certaine forme de sacré et de transcendance de Dieu. Bien que l'une et l'autre soient des beautés propres, cette intéressante époque post-conciliaire, après Vatican II, révélait, mais ça je l'ai compris plus tard, les limites d'un christianisme qui se réduit ou bien dans sa dimension verticale, ou bien dans sa dimension purement horizontale. Alors que il est par définition tout entier cruciforme, le christianisme. Vous voyez, il rejoint, c'est bien ça le slogan du christianisme, Dieu ne perd pas sa transcendance en se faisant proche et en se faisant un parmi les hommes, voilà, en se faisant présent. Cet caractère cruciforme du christianisme permet de rejoindre à la fois l'immanence et la transcendance de Dieu, l'humain et le divin, le matériel et l'immatériel, être de ce monde et pas de ce monde à la fois. Vous voyez, c'est ça le paradoxe et la dialectique chrétienne par essence. Alors j'ai pour ça croisé la route de deux personnes qui ont beaucoup compté dans mon initiation à ce parcours de formation en théologie. D'abord Monseigneur d'Agens, qui était à l'époque recteur de la faculté de théologie, recteur de la Cato de Toulouse, de l'Institut catholique de Toulouse, que je salue au passage, et le frère Jean-Michel Maldamé, que j'ai eu ce matin au téléphone, qui est un peu fatigué, mon maître en théologie, et qui m'a amené aussi sur cette route, qui m'a accompagné jusqu'au doctorat. et que je remercie pour son soutien. Je remercie aussi mon épouse, qui a fait preuve d'amour et de patience pour les heures passées dans les livres et dans les cours de théologie. Alors d'abord, quelques réflexions générales sur la théologie et sur les vérités de foi. Quand on parle de chercheurs en théologie, cela éveille souvent des interrogations qui, au fond, sont bien légitimes. Qu'est-ce que c'est que la recherche en théologie ? Il y a encore des choses à chercher en théologie. La théologie n'est-elle pas la fonction idéologique de l'Église ? Son bras armé intellectuel destiné à assurer la promotion du catéchisme et voire même un peu de propagande, hein, pour faire rentrer un petit peu des nouveaux membres. Bien évidemment, non. Mais la théologie n'est pas non plus un cri, fut-il un cri d'amour d'ailleurs vers Dieu, un Dieu qui, ne l'oublions pas, nous commande aussi de l'aimer en esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ta force, toute ton âme, tout ton cœur, et de tout ton esprit. C'est-à-dire qu'il y a une composante intellectuelle à la religion, à une époque où on cherche plutôt à réhabiliter une dimension qui, il est vrai, s'était un peu perdue, la dimension émotionnelle. Hein, on préfère cultiver, revenir, comme on dit parfois dans l'armée, les réfléchir, des fois, c'est déjà un peu désobéir. Donc, il fut un temps où on encourageait quand même les gens à plus ouvrir les livres de théologie. Aujourd'hui, on sent qu'on les encourage plutôt à s'orienter vers la chapelle et puis dans la prière, ce qui est cet équilibre absolument indispensable qu'il faut continuer d'avoir. En tout cas, la théologie n'est pas un luxe spéculatif, une espèce de jeu intellectuel, somme toute agréable et distrayant, consistant à débattre sur le sexe des anges, alors que tant de sujets sérieux appellent notre attention. Le christianisme instaure, je l'ai dit, parce que nous confessons un Dieu qui s'est fait homme, donc un Dieu qui rejoint le matériel, un Dieu immatériel rejoignant l'immatériel, mais qui nous convoque à une posture vis-à-vis de la vérité qui n'est en rien une exigence d'obéissance aveugle. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Il ignore ce que... Ce n'est pas des serviteurs que je veux, c'est des amis. Vous voyez, je vous appelle mes amis. L'ami, dans ce contexte, est opposé au serviteur qui brille par sa façon immédiate d'accomplir, de suivre la volonté sans questionner. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Luc, Jésus dit aussi « Jugez par vous-même, fils de Dieu qui parle ». Alors on vient le chercher pour une histoire de succession, pas possible, etc. Tu vas nous dire comment faire le partage. Jugez donc par vous-même. Lui qui nous renvoie. Donc on ne nous demande pas une soumission. Dans d'autres religions, il y a quelque chose de l'ordre de la soumission, de l'ordre de l'obéissance, hein, de ce qu'on appelle le fidéisme. Voilà. Or, dans la théologie, en particulier la théologie chrétienne, il s'agit bien d'articuler la parole rationnelle sur Dieu avec la raison. Alors, je voudrais évoquer bien sûr la réaction de certains qui consiste à dire « mais qui sommes-nous ?» pour soumettre Dieu au crible de la raison. De quel droit ? Mais parce que au commencement était la raison. Au commencement était le Logos. Le Logos était auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Et le Logos était Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité à penser Dieu, qui est affirmée dans les Écritures, qui n'est pas a posteriori, qui est là même avant la création de l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligibilité de Dieu qui fait partie de sa nature. Et ça, c'est quand même une extraordinaire bonne nouvelle, ce premier verset de l'évangile de Jean. Dans le domaine de la foi, définir la vérité comme adéquation entre le discours et la réalité n'est pas tout à fait adapté. C'est pas la meilleure définition, en tout cas la plus féconde. Même si l'on remarque, en lisant les évangiles, que Jésus allie volontiers le geste à la parole, hein, dans les guérisons notamment. Il exprime des choses et puis il les réalise, ou bien il les réalise pour les exprimer. Enfin, il y a vraiment voilà, une cohérence. Et de fait, il témoigne de la vérité par sa vie. Mais, dans le sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, ils seront consolés. Heureux les doux, ils obtiendront la terre. Les doux, c'est ceux qui se font dépouiller. Les types sympas qui, bon, allez, ils n'ont rien, mais ils donnent quand même, etc. Voyons, ceux-là, ils obtiendront leur... » Ce discours énonce un décalage, une inadéquation évidente entre la réalité des souffrances de ce monde et le bonheur annoncé par les paroles, par ces paroles, les paroles de Jésus. Et la vérité de son discours tient précisément dans ce décalage, dans ce que ce discours manifeste cet écart, et fait de cet écart le point de départ d'une espérance vers un niveau de réalité autre, qui est le fameux royaume de Dieu qu'il annonce dans tous ses enseignements. Et par opposition, ceux qui ont tout, tout ce qu'ils peuvent attendre de la vie, les repus, ceux qui n'attendent absolument rien, c'est la cause de leur propre malheur. Voilà ce qu'exprime ce fameux sermon sur la montagne. La tension que Jésus introduit entre ce qui est et la volonté de Dieu, tension que l'on exprime tous les jours lorsque nous disons « que ton règne vienne », parce que ton règne n'est pas là, que cesse cet écart entre ta volonté, que ta volonté soit faite. Voilà. Mais cette tension permet de relever la tête et de rendre vrai et vivant une réalité qui est apparemment vouée à l'échec, selon les critères du monde. C'est un peu le sens du discours Martin Luther King « Je fais un rêve aujourd'hui ». C'est la ségrégation. Mais je fais un rêve aujourd'hui, que nos enfants pique-niqueront ensemble, feront des sorties, etc. Je fais un rêve aujourd'hui. Je dis que c'est pas ce qui se passe, mais c'est ça qu'il faut. C'est à ça qu'il faut rêver. Vous voyez ce décalage énorme. Alors c'est la même chose pour l'Eucharistie, finalement, qui est un peu au centre de notre foi. Dans l'Eucharistie, il ne s'agit pas d'une symbolisation de quelque chose, ce n'est pas d'une ratification de la fraternité ou de je ne sais quoi. Il s'agit d'un décalage entre une réalité matérielle et une réalité spirituelle. Quand Jésus dit « ceci est mon corps », c'est évidemment pas son corps. C'est comme quand René Magritte peint une pipe et puis en dessous écrit « ceci n'est pas une pipe ». C'est une manière un peu de provoquer et de dire « évidemment, c'est pas mon corps ». Il y a des gens qui ont essayé de prendre une hostie consacrée et puis de la passer sous le... Ils ont vu voilà, farine... En dépit de ça, il existe donc une réalité spirituelle qui se donne pas forcément à voir dans la réalité matérielle, mais qui préfigure ce à quoi est promis la réalité matérielle. Alors c'est ce que Teilhard appelait l'eucharistisation du cosmos. L'affirmation invérifiable au plan scientifique, c'est qu'il y a déjà présent, là, la réalité spirituelle du corps du Christ, ce à quoi le monde entier, la création tout entière est vouée, à devenir une réalité spirituelle. Alors, on a dans cette différence avec les vérités scientifiques une autre notion qu'on retrouve un peu, qui est la notion de mouvement, la notion dynamique, et qui télescope la vérité et le chemin qui aboutit à la vérité. Rappelez-vous, moi je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est intéressant de reprendre très brièvement ce dialogue entre Jésus et Thomas, au chapitre 14 de Jean. Jésus, je cite Jésus, « Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Oui, d'abord, programmez votre GPS ou rentrez la destination, mais si vous ne savez pas la destination, aucun moyen d'avoir le chemin. Jésus, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. » Donc, ce n'est pas la destination, c'est sur le chemin que je suis. La vérité est un concept itinérant. La vérité est un concept itinérant. C'est en se mettant en chemin que la vérité advient. Et c'est un concept vivant, puisque le chemin, la vérité et la vie, ces trois prédicats, s'ils sont associés, quelque part un peu identiques, ou rapprochés les uns des autres, c'est pour dire aussi que la vérité, c'est chemin, la vérité, c'est vie. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Et c'est aussi un concept qui, par certains côtés, à cause de cette dimension dynamique, est un concept provisoire. Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » C'est donc qu'elle n'était pas tout entière. Et alors, le dépôt des vérités révélées et la clôture de la révélation, la vérité tout entière. Oui, parce que tout n'a pas été dit. On parlait de l'intelligence artificielle, à l'époque de Jésus, ou des tas de trucs, la fin de vie, la PMA, tout ça. Bon. Et toute cette vérité, mais même des vérités plus profondes, on est tout le temps, en fait, on est en train de chercher cette vérité, et il faut être en train de la chercher. Pourquoi faut-il être en train de la chercher ? Parce que, et là je cite saint Augustin, il faudrait que cette phrase soit écrite sur le frontispice de toutes les facultés de théologie. Voici la phrase. « Soyons comme des hommes qui cherchent, mais qui, quand ils ont trouvé, ne s'arrêtent pas de chercher encore. » Parce que le Christ a ceci de particulier, c'est que quand tu crois l'avoir trouvé, si tu ne le cherches plus, tu le perds. Quand tu crois l'avoir trouvé, si tu ne le cherches plus, tu le perds. C'est très beau, ça. Et vous voyez cette idée du Christ qui se trouve sur le chemin, cette profondeur infinie du mystère de Dieu. Donc soyons comme des êtres, des hommes et des femmes qui ne s'arrêtent jamais de chercher encore. Sur un plan un petit peu plus personnel, pour terminer, je voudrais évoquer deux sujets de recherche qui ont été aussi pour moi des lieux de croisement entre ma vision scientifique du monde et mon regard théologique, et peut-être plus généralement entre la vision scientifique du monde et le regard théologique. Enfin, plus modestement, je dirais voilà comment j'y ai croisé des points de rencontre dans un dialogue que je conçois personnellement comme mutuellement éclairant et bénéfique pour les deux domaines, si vous voulez, qu'on a tendance à écarter un petit peu en disant « bon, ça se rejoint, mais à l'infini ». C'est comme les droites qui sont parallèles, elles se rejoignent à l'infini. Bon. Donc jamais, quoi. Bon. Premier sujet. Le sujet, c'était le sujet de mon mémoire de maîtrise de théologie consacré à la conception virginale de Jésus, qu'il ne faut pas confondre avec la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie. Alors, c'est une doctrine qui est une doctrine mariale. Là, on parle de la doctrine christologique qui a pour but, de fonction, on va dire, d'affirmer la filiation divine de Jésus. Ce choix du sujet avait pour moi un instinct, c'est parce que j'ai toujours eu un intérêt pour la christologie et aussi parce qu'il y a eu un point de départ scientifique qui était lié à un livre qui traînait à la maison, là, de génétique. Et puis, il m'est venu cette idée, d'où vient... Ah bon, alors moi, je découvre rien, je suis nul en tout ça. Le génome, les contributions du papa, de la maman, tout ça. C'est extraordinaire, hein. C'est fantastique. Mais alors, d'où vient la partie qui, normalement, provient du Père ? Si Jésus est vrai homme, en plus que d'être vrai Dieu, il lui faut bien cette partie-là aussi, hein. Bon. Qui joue un certain rôle, ne serait-ce que le sexe, par exemple. Parce que si c'était que maman dupliquée, ça fait la parthénogénèse, ça fait que des filles, je crois. Donc j'avais là un problème. Et ça, c'est bien. Quand on a un problème, c'est qu'il y a de la recherche possible. Parce qu'on a un petit problème, une tension. Et j'avais été voir le père Simon Légas, un excellent, un remarquable bibliste, qui donnait les cours à la Cato. Et à la fin du cours, je vais le voir, je dis « Père, j'ai idée, on nous demande là de commencer à réfléchir à notre sujet, la conception virginale de Jésus. » Il me dit « Ah, mon pauvre ami !» Et puis il baisse les bras et me dit « Ah, mais vous êtes laïque ? C'est un très bon sujet !» Et alors à chaque fois, à la fin du cours, il me faisait un petit signe. Donc je perds, mais écoutez, j'ai trouvé, c'était un extraordinaire érudit. Il avait des petites fiches comme ça, et puis il me prend la fiche, il me dit, j'ai trouvé là, hein, comme s'il me passait quelque chose sous le manteau, vous savez, vous lirez ça, c'est vraiment super, vous allez voir, c'est super. Donc moi, je me régalais de tous ces articles. Bon. Donc je me suis mis en quête de travailler là-dessus, et j'ai rapidement identifié, si vous voulez, que, et là ça nous amène à notre problème, que cette expression de la doctrine de la conception virginale était largement conditionnée par une certaine vision de la procréation humaine que j'appelle le schéma agraire, vous savez, le schéma de la petite graine, voilà. Ce qu'on explique aux enfants. Donc l'être était vu comme étant du côté du père essentiellement, même si, je n'étais pas stupide, il voyait bien que des caractères infusaient dans l'enfant, des caractères maternels infusaient dans l'enfant, mais comme lorsque on plante un cépage sur certains coteaux, dans certains trucs, et que ça change la nature du vin. Vous voyez, voilà, on voit bien que c'est important. C'est important, mais finalement, le cœur de l'être, c'était quand même du côté masculin. Alors, j'en dis pas plus sur tous les arguments, mais enfin, vous en verrez un en particulier sur ce que j'appelle l'argument épiclétique, c'est que j'ai parlé de l'Eucharistie, quand dans l'Eucharistie, on n'a jamais exigé que quelque chose se change au niveau matériel, mais là, curieusement, pour la conception virginale, il est important que ce soit. Donc, j'ai discuté un petit peu tout ça, mais mon responsable de maîtrise m'avait dit, il ne s'agit pas de faire de thèse, là, on expose un débat. Alors, j'ai exposé le débat, ceux qui sont intéressés par cette analyse peuvent se procurer un livre qui s'appelle « Jésus, fils de Joseph », que j'ai écrit, qui est à la librairie là, après cette conférence. Alors quand même, un petit détail amusant, lors de la soutenance orale de ma maîtrise, c'était dans l'amphithéâtre Bruno de Solages, qui a été aménagé dans l'ancienne chapelle de la maison Seyant, là, qui est place du Parlement, qu'on appelle aussi la chapelle de l'Inquisition. Ambiance. Parce que pendant un moment, des dominicains étaient logés là. Et puis, il y a eu aussi un... Et alors, lors de la soutenance, le jury a exigé que je prononce le passage du credo, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Alors, je n'ai pas compris la question au départ. J'ai dit, mais comment dire, moi, vous voulez savoir que ce que moi, je pense vraiment. Parce que j'ai dit, bon, voilà, il y a ceux qui disent que, y a, etc. J'ai exposé mon débat, quoi. Voilà. Il y a tel problème. Alors, on peut dire d'un côté que c'est peut-être... Ça, mais dans ce cas, c'est l'Esprit Saint qui s'incarne et non pas le Fils. Et non pas le Fils. Alors, notamment, ça pose... Bon. Et alors, cette question... Alors, moi, ce que, d'ailleurs, j'ai dit en toute... sans hésitation. Hein. Cette demande a choqué. Je me souviens d'une collègue de travail qui m'a dit « je ne comprends pas », etc. Et finalement, j'ai ressenti aussi une gêne parce qu'il ne s'agissait plus de chercher ensemble. Il s'agissait de vérifier la probité, la moralité du prévenu. Et je s'en fous, la moralité de Jean-Marc Mosqueta. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si on a progressé dans la compréhension de cette doctrine. Sujet numéro 2. Mon doctorat de théologie... Alors le sujet a été plus difficile à faire émerger, puisque j'étais parti d'abord sur la question plus vaste de l'action divine dans le monde matériel, comment Dieu agit dans le monde. Et je suis arrivé rapidement sur la question, si vous voulez, de la question de l'immensité du monde. Pourquoi c'est si grand ? Pourquoi c'est si grand ? Tout ça pour... un salut qui concernerait qu'une toute petite espèce dans l'écosystème terrestre, qui est l'espèce humaine, et encore, peut-être pas tous ceux de l'espèce humaine, juste les happy few. Alors que nous sommes une poussière dans l'immensité du cosmos, il y a des milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie, des milliards de galaxies, et tout ça à des distances tellement grandes que de toute façon, on n'a pas le temps d'évangéliser tous ces mondes déjà disparus. Enfin bon, tout ça est vertigineux. Le doyen de l'époque avait dit « pas assez confessant ».« Pas assez confessant ». La première fois que j'entendais ce mot, il fallait confesser. Mais confesser quoi ? Alors, la question qu'il y avait derrière, c'est « sommes-nous sur cette terre le centre théologique de l'univers ? Y a-t-il, en quelque sorte, un principe copernicien qui fait que nous sommes le centre ? Et que les autres n'ont qu'à se rendre ici, chez nous, puisque c'est chez nous ». Mais oui. Voilà, je passe sur les tensions et les débats qu'ont pu susciter, mais je salue ceux qui étaient à ma soutenance, puisque j'ai dû une sympathique délégation d'amis, et dont certains amis prêtres aussi, qui m'ont accompagné à Louvain-la-Neuve, puisque la faculté de théologie de l'époque avait été un petit peu étonnée par ce sujet, on va dire. Et un autre relecteur avait été nommé, le père Grégory Wohimbe, qui est l'actuel recteur de l'Université catholique de Lyon, à qui on avait demandé, c'est intéressant de le savoir, de répondre à la question « Y a-t-il des erreurs doctrinales dans ces travaux qui empêcheraient que cette thèse soit présentée pour l'obtention d'un doctorat en théologie catholique ?» C'est pas « Y a-t-il des choses est-ce qu'on peut trancher ce débat ?» Enfin, je sais pas. Si, c'était une bonne question, hein, mais bon. En tout cas, la réponse a été « Ben non, visiblement pas d'erreur doctrinale, mais c'est d'ailleurs un très bon travail, m'ont dit, mais allez le soutenir ailleurs, ce que j'ai fait. » Je conclue. Je conclue en disant que plus les années passent et plus je perçois davantage de ressemblance que d'opposition entre la démarche de la recherche en sciences et la démarche de la recherche en théologie. D'abord, il y a en commun la profondeur inépuisable du sujet. Dieu, c'est un sujet inépuisable. Et une autre ressemblance, c'est l'usage de la raison. C'est que on utilise sa raison, des principes, des bases, l'écriture, la tradition, le magistère, la dimension communautaire de la foi, etc. Et puis, il y a la présence de Dieu dans l'univers. Alors, Dieu n'est pas moins transcendant, je rappelle, il ne s'absente pas de l'univers. Au lendemain de la faute originelle, il vient se promener dans le jardin. Et Dieu fait sa petite promenade du matin dans le jardin, à la brise du jour. Il est ici, chez lui. Il est transparent, il transpire de sa présence, l'univers transpire de sa présence. Le pape François, dans Laudato aussi, a parlé de la nature comme l'évangile de la création, titre du chapitre 2, très très beau. C'est non seulement le lieu de sa présence, mais le lieu aussi de son message. Et il y a une forme de liberté, je conclue là-dessus, puisque c'est le titre de la session. Il y a une forme de liberté qui transparaît finalement dans cette quête du chercheur que nous devons être sans arrêt. Ce qui nous rend libres dans la quête de la liberté, c'est cette confiance que nous ne serons pas, quelle que soit la chose que nous allons découvrir, eh bien nous ne serons pas bouleversés, par peut-être surpris, mais pas abandonnés, que ça va nous faire changer d'avis. Vous voyez ? Il y a une forme de foi. Et ça nous rend léger et libre, finalement, la quête de la liberté. Au lieu de nous rendre peureux, en disant « pétard, pourvu qu'il ne voit pas que je... » Bon, je vais prendre un sujet beaucoup plus simple, le 10e poème mystique de saint Jean de la Croix sur la sainteté. Comme ça, j'assure mes arrières et j'ai rien à dire, mais au moins, personne ne me reprochera rien. Alors, c'est sûr que quand on fait une thèse sur le péché originel, par exemple... C'est un petit peu plus piquant, quoi. Hein. C'est sûr qu'on risque de ne pas être tellement épiscopable. Mais, vous voyez, ben, ayons confiance. Quelle police nous surveille pour. Voilà. Et c'est cette quête dont je voudrais témoigner à la fois sur le plan scientifique et sur le plan théologique. Et oui, la vérité nous rend libres. Méfions-nous des peurs qui nous rendent statiques et peu audacieux, qui nous conseille d'enfouir notre foi dans le sol, au lieu de la disperser aux quatre vents, de la faire, de la faire grandir. La vérité nous rendra libres. Et comme le dit Teilhard, nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons des expériences spirituelles, parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Je vous remercie.